Mon cher monsieur, encore une fois, gardez-vous des charlatans. Nouvelle douleur occasionnée par les nouveaux systèmes. Ce petit morceau est tiré des manuscrits d'un vieux solitaire. Je vois que si de bons citoyens se sont amusés à gouverner les États et à se mettre à la place des rois, si d'autres se sont crus des Triptolèmes et des Cérès, il y en a de plus fiers qui se sont mis sans façon à la place de Dieu et qui ont créé l'univers avec leurs plumes, comme Dieu le créa autrefois par la parole. Un des premiers qui se présenta à mes adorations fut un descendant de Thalès, nommé Télamède, qui m'apprit que les montagnes et les hommes sont produits par les eaux de la mer. Il y eut d'abord de beaux hommes marins qui ensuite devinrent amphibies. Leur belle queue fourchue se changea en cuisses et en jambes. J'étais encore tout plein des métamorphoses d'Ovide et d'un livre où il était démontré que la race des hommes était bâtarde d'une race de babouins. Je mets autant de cendre d'un poisson que d'un singe. Avec le temps, j'eus quelques doutes sur cette généalogie et même sur la formation des montagnes. « Quoi, me dit-il, vous ne savez pas que les courants de la mer, qui jettent toujours du sable à droite et à gauche à 10 ou 12 pieds de hauteur, tout au plus, ont produit dans une suite infinie de siècles des montagnes de 20 000 pieds de haut, lesquelles ne sont pas de sable? Apprenez que la mer a nécessairement couvert tout le globe. La preuve en est qu'on a vu des ancres de vaisseaux sur le mont Saint-Bernard, qui était là plusieurs siècles avant que les hommes eussent des vaisseaux. Figurez-vous que la terre est un globe de verre qui a été longtemps tout couvert d'eau. » Plus il m'endoctrinait, plus je devenais incrédule. « Quoi donc, me dit-il, n'avez-vous pas vu le Falum de Touraine à 36 lieues de la mer? C'est un amas de coquilles avec lesquelles on engraisse la terre comme avec du fumier. Or, si la mer a déposé dans la succession des temps une mine entière de coquilles à 36 lieues de l'océan, pourquoi n'aura-t-elle pas été jusqu'à 3 000 lieues pendant plusieurs siècles sur notre globe de verre? Je lui répondis, « Monsieur Télamède, il y a des gens qui font 15 lieues par jour à pied, mais ils ne peuvent en faire 50. Je ne crois pas que mon jardin soit de verre. Et quant à votre falune, je trouve encore qu'il soit un lit de coquilles de mer. Il se pourrait bien que ce ne fût qu'une mine de petites pierres calcaires qui prennent aisément la forme des fragments de coquilles, comme il y a des pierres qui sont figurées en langues et qui ne sont point des langues, en étoiles et qui ne sont point des astres, en serpents roulés sur eux-mêmes et qui ne sont point des serpents, en partie naturels du beau sexe et qui ne sont point pourtant les dépouilles des dames. On voit des dendrites, des pierres figurées qui représentent des arbres et des maisons, sans que jamais ces petites pierres aient été des maisons et des chênes. « Mais, monsieur l'incrédule, que répondrez-vous aux huîtres pétrifiées qu'on a trouvées sur le sommet des Alpes ?»« Je répondrai, monsieur le créateur, que je n'ai pas vu plus d'huîtres pétrifiées que d'encre de vaisseau sur le haut du mont Cenis. Je répondrai ce qu'on a déjà dit, qu'on a trouvé des écailles d'huîtres qui se pétrifient aisément, à de très grandes distances de la mer, comme on a déterré des médailles romaines à 100 lieues de Rome. Et j'aime mieux croire que des pèlerins de Saint-Jacques ont laissé quelques coquilles vers Saint-Maurice que d'imaginer que la mer a formé le mont Saint-Bernard. Il y a des coquilles partout, mais est-il bien sûr qu'ils ne soient pas les dépouilles des testacés et des crustacés de nos lacs et de nos rivières aussi bien que des petits poissons marins ? « Oh, monsieur l'incrédule, je vous tournerai en ridicule dans le monde que je me propose de créer. Oh, monsieur le créateur, à vous permis, chacun est le maître dans son monde, mais vous ne me ferez jamais croire que celui où nous sommes soit de verre, ni de quelque coquille soient les démonstrations que la mer a produit les Alpes et le mont Taurus. Vous savez qu'il n'y a aucune coquille dans les montagnes d'Amérique. Il faut que ce ne soit pas vous qui ayez créé cet hémisphère et que vous vous soyez contenté de former l'ancien monde. C'est bien assez. Monsieur, monsieur, si on n'a pas découvert de coquilles sur les montagnes d'Amérique, on en découvrira. Oh, monsieur, c'est parler en créateur qui sait son secret et qui est sûr de son fait. Je vous abandonne, si vous voulez, votre falune, pourvu que vous me laissiez mes montagnes. Je suis d'ailleurs le très humble et très obéissant serviteur de votre providence. Dans le temps que je m'instruisais ainsi avec Télélamède, un jésuite irlandais déguisé en homme, d'ailleurs grand observateur, ayant de bons microscopes, fit des anguilles avec de la farine de blé ergotée. On ne douta pas alors qu'on ne fît des hommes avec de la farine de bon froment. Aussitôt, on créa des particules organiques qui composèrent des hommes. Pourquoi non ? Le grand géomètre Fatio avait bien ressuscité des morts à Londres. On pouvait tout aussi aisément faire à Paris des vivants avec des particules organiques. Mais malheureusement, les nouvelles anguilles de Needham ayant disparu, les nouveaux hommes disparurent aussi et s'enfuirent chez les monades qu'ils rencontrèrent dans le plein au milieu de la matière subtile, globuleuse et cannelée. Ce n'est pas que ces créateurs de systèmes n'aient rendu de grands services à la physique. À Dieu ne plaise que je méprise leurs travaux. On les a comparés à des alchimistes qui, en faisant de l'or, qu'on ne fait point, ont trouvé de bons remèdes, ou du moins des choses très curieuses. On peut être un homme d'un rare mérite et se tromper sur la formation des animaux et sur la structure du globe. Les poissons changés en hommes et les eaux changées en montagnes ne m'avaient pas fait autant de mal que M. Boudot. Je me bornais tranquillement à douter lorsqu'un lapon me prit sous sa protection. C'était un profond philosophe, mais qui ne pardonnait jamais aux gens qui n'étaient pas de son avis. Il me fit d'abord connaître clairement l'avenir en exaltant mon âme. Je fis de si prodigieux efforts d'exaltation que j'en tombais malade, mais il me guérit en m'enduisant de poids-résine de la tête aux pieds. À peine fus-je en état de marcher, qu'il me proposa un voyage aux terres australes pour y disséquer les têtes de géants, ce qui nous ferait connaître clairement la nature de l'âme. Je ne pouvais supporter la mer, il eut la bonté de me mener par terre. Il fit creuser un grand trou dans le globe terraqué. Ce trou allait droit chez les Patagons. Nous partîmes, je me cassai une jambe à l'entrée du trou, on eut beaucoup de peine à me redresser la jambe, il s'y forma un calus qui m'a beaucoup soulagé. J'ai déjà parlé de tout cela dans une de mes diatribes pour instruire l'univers très attentif à ces grandes choses. Je suis bien vieux, j'aime quelquefois à répéter mes contes, afin de les inculquer mieux dans la tête des petits garçons pour lesquels je travaille depuis si longtemps. Mariage de l'homme aux 40 écus. L'homme aux 40 écus s'étant beaucoup formé et ayant fait une petite fortune, épousa une jolie fille qui possédait 100 écus de rente. Sa femme devint bientôt grosse, il alla trouver son géomètre et lui demanda si elle lui donnerait un garçon ou une fille. Le géomètre lui répondit que les sages-femmes, les femmes de chambre, le savaient pour l'ordinaire, mais que les physiciens qui prédisent les éclipses n'étaient pas si éclairés qu'elles. Il voulut savoir ensuite si son fils ou sa fille avait déjà une âme. Le géomètre dit que ce n'était pas son affaire et qu'il en fallait parler aux théologiens du coin. L'homme aux 40 écus, qui était déjà l'homme aux 200 écus pour le moins, demanda en quel endroit était son enfant. Dans une petite poche, lui dit son ami, entre la vessie et l'intestin rectum. « Oh Dieu, paternel ! S'écria-t-il, l'âme immortelle de mon fils, née et logée entre de l'urine et quelque chose de pire. Oui, mon cher voisin, l'âme d'un cardinal n'a point eu d'autre berceau, et avec cela, on fait le fier et on se donne des airs. Ah, monsieur le savant, ne pourriez-vous point me dire comment les enfants se font ? Non, mon ami, mais si vous voulez, je vous dirai ce que les philosophes ont imaginé, c'est-à-dire comment les enfants ne se font point. Premièrement, le révérend père Sanchez, dans son excellent livre « De matrimonio », est entièrement de l'avis d'Hippocrate. Il croit, comme un article de foi, que les deux véhicules fluides de l'homme et de la femme s'élancent et s'unissent ensemble, et que dans le moment l'enfant est conçu par cette union. Et il est si persuadé de ce système physique, devenu théologique, qu'il examine, chapitre 21 du livre second, « Utrum virgo Maria, semen miserit in copulatione, cum spiritu sancto. Monsieur, je vous ai déjà dit que je n'entends pas le latin. Expliquez-moi en français l'oracle du père Sanchez. » Le géomètre lui traduisit le texte et tous deux frémirent d'horreur. Le nouveau marié, en trouvant Sanchez prodigieusement ridicule, fut pourtant assez content d'Hippocrate et il se flattait que sa femme avait rempli toutes les conditions imposées par ce médecin pour faire un enfant. Malheureusement, lui dit le voisin, il y a beaucoup de femmes qui ne répandent aucune liqueur, qui ne reçoivent qu'avec aversion les embrassements de leur mari et qui cependant en ont des enfants. Cela seul décide contre Hippocrate et Sanchez. De plus, il y a très grande apparence que la nature agit toujours dans les mêmes cas par les mêmes principes. Or, il y a beaucoup d'espèces d'animaux qui engendrent sans copulation, comme les poissons écaillés, les huîtres, les pucerons. Il a donc fallu que les physiciens cherchassent une mécanique de génération qui convainc à tous les animaux. Le célèbre Harvey, qui le premier démontra la circulation et qui était digne de découvrir le secret de la nature, crut l'avoir trouvé dans les poules. Elles pondent des œufs, il jugea que les femmes pondaient aussi. Les mauvais plaisants dirent que c'est pour cela que les bourgeois et même quelques gens de cour appellent leur femme ou leur maîtresse ma poule, et qu'on dit que toutes les femmes sont coquettes parce qu'elles voudraient que les coqs les trouvassent belles. Malgré ces railleries, Harvey ne changea point d'avis et il fut établi dans toute l'Europe que nous venons d'un œuf. L'homme aux 40 écus. « Mais, monsieur, vous m'avez dit que la nature est toujours semblable à elle-même, qu'elle agit toujours par le même principe dans le même cas. Les femmes, les juments, les ânes, les anguilles ne pondent point. Vous vous moquez de moi. » Le géomètre. « Elles ne pondent point en dehors, mais elles pondent en dedans. Elles ont des ovaires comme tous les oiseaux. Les juments, les anguilles en ont aussi. » Un œuf se détache de l'ovaire et il est couvé dans la matrice. Voyez tous les poissons écaillés, les grenouilles. Ils jettent des œufs que le mâle féconde. Les baleines et les autres animaux marins de cette espèce font éclore leurs œufs dans leur matrice. Les mites, les teignes, les plus vils insectes sont visiblement formés d'un œuf. Tout vient d'un œuf. Et notre globe est un grand œuf qui contient tous les autres. Et vraiment, ce système porte tous les caractères de la vérité. Il est simple, il est uniforme, il est démontré aux yeux dans plus de la moitié des animaux. J'en suis fort content, je n'en veux point d'autre. Les œufs de ma femme sont fort chers. On s'est lassé à la longue de ce système, on a fait les enfants d'une autre façon. Et pourquoi, puisque celle-là est si naturelle? C'est qu'on a prétendu que nos femmes n'ont point d'ovaires, mais seulement de petites glandes. Je soupçonne que des gens qui avaient un autre système à débiter ont voulu décréditer les œufs. Cela pourrait bien être. De Landais s'avisèrent d'examiner la liqueur séminale au microscope, celle de l'homme, celle de plusieurs animaux, et ils crurent y apercevoir des animaux déjà tout formés qui couraient avec une vitesse inconcevable. Ils en virent même dans le fluide séminal du coq. Alors on jugea que les mâles faisaient tout et les femelles rien. Elles ne servirent plus qu'à porter le trésor que le mâle leur avait confié. Voilà qui est bien étrange. J'ai quelques doutes sur tous ces petits animaux qui frétillent si prodigieusement dans une liqueur, pour être ensuite immobiles dans les œufs des oiseaux, et pour être non moins immobiles 9 mois, à quelques culbutes près, dans le ventre de la femme. Cela ne me paraît pas conséquent. Ce n'est pas autant que j'en puis juger la marche de la nature. Comment sont faits, s'il vous plaît, ces petits hommes qui sont si bons nageurs dans la liqueur dont vous me parlez? Comme des vermisseaux. Il y avait surtout un médecin nommé Andry qui voyait des vers partout et qui voulait absolument détruire le système d'Harvey. Il aurait, s'il avait pu, anéanti la circulation du sang parce qu'un autre l'avait découverte. Enfin, 2 Hollandais et M. Andry, à force de tomber dans le péché d'Onan et de voir les choses au microscope, réduisirent l'homme à être chenille. Nous sommes d'abord un ver comme elle. De là, dans notre enveloppe, nous devenons comme elle pendant 9 mois, une vraie chrysalide que les paysans appellent fève. Ensuite, si la chenille devient papillon, nous devenons hommes. Voilà nos métamorphoses. Eh bien, s'en est-on tenu là? N'y a-t-il point eu depuis de nouvelles modes? Oh, se dégoûter d'être chenille! Un philosophe extrêmement plaisant a découvert dans une Vénus physique que l'attraction faisait les enfants, et voici comment la chose s'opère. Le germe étant tombé dans la matrice, l'œil droit attire l'œil gauche qui arrive pour s'unir à lui en qualité d'œil, mais il en est empêché par le nez qu'il rencontre en chemin et qui l'oblige à se placer à gauche. Il en est de même des bras, des cuisses et des jambes qui tiennent aux cuisses. Il est difficile d'expliquer dans cette hypothèse la situation des mamelles et des fesses. Ce grand philosophe n'admet aucun dessein de l'être créateur dans la formation des animaux. Il est bien loin de croire que le cœur soit fait pour recevoir le sang et pour le chasser, l'estomac pour digérer, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Cela lui paraît trop vulgaire. Tout se fait par attraction. Voilà un maître fou. Oh, je me flatte que personne n'a pu adopter une idée aussi extravagante. On en rit beaucoup, mais ce qu'il y eut de triste, c'est que cet insensé ressemblait aux théologiens qui persécutent autant qu'ils le peuvent ceux qu'ils font rire. D'autres philosophes ont imaginé d'autres manières qui n'ont pas fait une plus grande fortune. Ce n'est plus le bras qui va chercher le bras, ce n'est plus la cuisse qui court après la cuisse, ce sont de petites molécules, de petites particules de bras et de cuisses qui se placent les unes sur les autres. On sera peut-être enfin obligé de revenir aux œufs, après avoir perdu bien du temps. J'en suis ravi, mais quel a été le résultat de toutes ces disputes? Le doute. Si la question avait été débattue entre les théologos, il y aurait eu des excommunications et du sang répandu, mais entre les physiciens, la paix est bientôt faite. Chacun a couché avec sa femme, sans penser le moins du monde à son ovaire, ni à ses trompes de Fallope. Les femmes sont devenues grosses ou enceintes, sans demander seulement comment ce mystère s'opère. C'est ainsi que vous semez du blé et que vous ignorez comment le blé germe en terre. Oh, je le sais bien, on me l'a dit il y a longtemps, c'est par pourriture. Cependant, il me prend quelquefois des envies de rire de tout ce qu'on m'a dit. C'est une fort bonne envie. Je vous conseille de douter de tout, excepté que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits et que les triangles qui ont même base et même hauteur sont égaux entre eux ou autre proposition pareille, comme par exemple que deux et deux font quatre. L'homme aux 40 écus. Oui, je crois qu'il est fort sage de douter, mais je sens que je suis curieux depuis que j'ai fait fortune et que j'ai du loisir. Je voudrais, comme ma volonté remue mon bras ou ma jambe, découvrir le ressort par lequel ma volonté les remue, car sûrement il y en a un. Je suis quelquefois tout étonné de pouvoir lever et abaisser mes yeux et de ne pouvoir dresser mes oreilles. Je pense, et je voudrais connaître un peu, toucher au doigt ma pensée. Cela doit être fort curieux. Je cherche, si je pense par moi-même, si Dieu me donne mes idées, si mon âme est venue dans mon corps à 6 semaines ou à 1 jour, comment elle s'est logée dans mon cerveau, si je pense beaucoup quand je dors profondément et quand je suis en léthargie. Je me creuse la tête pour savoir comment un corps en pousse un autre. Mes sensations ne m'étonnent pas moins. J'y trouve du divin, et surtout dans le plaisir. J'ai fait quelquefois mes efforts pour imaginer un nouveau sens, et je n'ai jamais pu y parvenir. Les géomètres savent toutes ces choses, ayez la bonté de m'instruire. Hélas, nous sommes aussi ignorants que vous. Adressez-vous à la Sorbonne. L'homme 40 écus devenu père résonne sur les moines. Quand l'homme aux 40 écus se vit père d'un garçon, il commença à se croire un homme de quelque poids dans l'État. Il espéra donner au moins 10 sujets au roi, qui seraient tous utiles. C'était l'homme du monde qui faisait le mieux les paniers, et sa femme était une excellente couturière. Elle était née dans le voisinage d'une grosse abbaye de 100 000 livres de rente. Son mari me demanda un jour pourquoi ces messieurs, qui étaient en petit nombre, avaient englouti tant de parts de 40 écus. « Mais sont-ils plus utiles que moi, la patrie ?»« Non, mon cher voisin. Mais servent-ils comme moi la population du pays ?»« Non, au moins en apparence. » Mais cultivent-ils la terre? Défendent-ils l'État quand il est taqué? Non, 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 ils prient Dieu pour vous. Eh bien, je prierai Dieu pour eux et partageons. Combien croyez-vous que les couvents renferment de ces gens utiles, soit en hommes, soit en filles, dans le royaume? Par les mémoires des intendants, faits sur la fin du dernier siècle, il y en avait environ 90 000. Par notre ancien compte, il ne devait, à 40 écus par tête, posséder que 10 800 000 livres. Combien en ont-ils? Oh, cela va, 50 000 000, en comptant les messes et les quêtes des moines mendiants, qui mettent réellement un impôt considérable sur le peuple. Un frère quêteur d'un couvent de Paris s'est vanté publiquement que sa besace valait 80 000 livres de rente. Voyons, combien 50 000 000 répartis entre 90 000 têtes tondues donnent à chacune? 550 livres. C'est une somme considérable dans une société nombreuse, où les dépenses diminuent par la quantité même des consommateurs, car il en coûte bien moins à 10 personnes pour vivre ensemble que si chacun avait séparément son logis et sa table. Les ex-jésuites à qui on donne aujourd'hui 400 livres de pension, on en crée réellement perdu à ce marché? Oh, je ne le crois pas, car ils sont presque tous retirés chez les parents qui les aident. Plusieurs disent la messe pour de l'argent, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. D'autres se sont faits précepteurs, d'autres ont été soutenus par des dévotes. Chacun s'y tirait d'affaire, et peut-être y en a-t-il peu aujourd'hui qui, ayant goûté du monde et de la liberté, voulussent reprendre leurs anciennes chaînes. La vie monacale, quoi qu'on en dise, n'est point du tout à envier. C'est une maxime assez connue que les moines sont des gens qui s'assemblent sans se connaître, vivent sans s'aimer et meurent sans se regretter. Vous pensez donc qu'on leur rendrait un très grand service de les défroquer tous? Ah, ils y gagneraient beaucoup, sans doute, l'État encore davantage. On rendrait à la patrie les citoyens, les citoyennes, qui ont sacrifié témérairement leur liberté dans un âge où les lois ne permettent pas qu'on dispose d'un fonds de dissoudrante. On tirerait ces cadavres de leur tombeau, ce serait une vraie résurrection. Leurs maisons deviendraient des hôtels de ville, des hôpitaux, des écoles publiques, ou seraient affectées à des manufactures. La population deviendrait plus grande, tous les arts seraient mieux cultivés. On pourrait du moins diminuer le nombre de ces victimes volontaires en fixant le nombre des novices. La patrie aurait plus d'hommes utiles et moins de malheureux. C'est le sentiment de tous les magistrats. C'est le vœu unanime du public depuis que les esprits sont éclairés. L'exemple de l'Angleterre et de tant d'autres États est une preuve évidente de la nécessité de cette réforme. Que ferait aujourd'hui l'Angleterre si au lieu de 40 000 hommes de mer, elle avait 40 000 moines? Plus les arts se sont multipliés, plus le nombre des sujets laborieux est devenu nécessaire. Il y a certainement dans les cloîtres beaucoup de talents ensevelis qui sont perdus pour l'État. Il faut, pour faire fleurir un royaume, le moins de prêtres possible et le plus d'artisans possible. L'ignorance et la barbarie de nos pères, loin d'être une règle pour nous, n'est qu'un avertissement de faire ce qu'ils feraient s'ils étaient en notre place avec nos lumières. Ce n'est donc point par haine contre les moines que vous voulez les abolir, c'est par pitié pour eux, c'est par amour pour la patrie. Oh, je pense comme vous. Je ne voudrais point que mon fils fût moine. Et si je croyais que je dusse avoir des enfants pour le cloître, je ne coucherais plus avec ma femme. Quel est en effet le bon père de famille qui ne gémissent de voir son fils et sa fille perdus pour la société? Cela s'appelle se sauver, mais un soldat qui se sauve quand il faut combattre est puni. Nous sommes tous des soldats de l'État. Nous sommes à la solde de la société quand nous venons des déserteurs, quand nous la quittons. Que dis-je? Les moines sont des parricides qui étouffent une postérité tout entière. 90 000 cloîtrés qui braillent ou qui nasillent du latin pourraient donner à l'État chacun 2 sujets. Cela fait 160 000 hommes qu'ils font périr dans leurs germes. Au bout de 100 ans, la perte est immense. Cela est démontré. Pourquoi donc le monachisme a-t-il prévalu? Parce que le gouvernement fut presque partout détestable et absurde depuis Constantin. Parce que l'Empire romain eut plus de moines que de soldats, parce qu'il y en avait 100 000 dans la seule Égypte, parce qu'ils étaient exempts de travail et de taxes, parce que les chefs des nations barbares qui détruisirent l'Empire, s'étant fait chrétiens pour gouverner des chrétiens, exercèrent la plus horrible tyrannie, parce qu'on se jetait en foule dans les cloîtres pour échapper aux fureurs de ces tyrans. Et qu'on se plongeait dans l'esclavage pour en éviter un autre, parce que les papes, en instituant tant d'ordres différents de fainéants sacrés, se firent autant de sujets dans les autres états, et parce qu'un paysan aime mieux être appelé mon révérend père et donner des bénédictions que de conduire la charrue, parce qu'il ne sait pas que la charrue est plus noble que le froc, parce qu'il aime mieux vivre aux dépens des sots que par un travail honnête, enfin parce qu'il ne sait pas qu'en se faisant moine, il se prépare des jours malheureux, tissus d'ennui et de repentir. Allons, monsieur, plus de moines pour leur bonheur et pour le nôtre. Mais je suis fâché d'entendre dire au seigneur de mon village, père de 4 garçons et de 3 filles, qu'il ne saura où les placer s'il ne fait pas ses filles religieuses. Cette allégation, trop souvent répétée, est inhumaine, antipatriotique, destructive de la société. Toutes les fois qu'on peut dire d'un état de vie, quel qu'il puisse être, si tout le monde embrassait cet état, le genre humain serait perdu. Il est démontré que cet état ne vaut rien et que celui qui le prend nuit au genre humain autant qu'il est en lui. Or, il est clair que si tous les garçons et toutes les filles s'encloîtraient, le monde périrait. Donc la moinerie est par cela seule l'ennemi de la nature humaine, indépendamment des maux affreux qu'elle a causés quelquefois. Alors, ne pourrait-on pas en dire autant des soldats ? Non, assurément. Car si chaque citoyen porte les armes à son tour, comme autrefois dans toutes les républiques et surtout dans celle de Rome, le soldat n'en est que meilleur cultivateur. Le soldat citoyen se marie, il combat pour sa femme et pour ses enfants. Plût à Dieu que tous les laboureurs fussent soldats et mariés, ils seraient d'excellents citoyens. Mais un moine, en tant que moine, n'est bon qu'à dévorer la substance de ses compatriotes. Il n'y a point de vérité plus reconnue. Mais les filles, monsieur, les filles des pauvres gentilshommes qu'on ne peut marier, que feront-elles ? Elles feront, on l'a dit mille fois, comme les filles d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande, de Suisse, de Hollande, de la moitié de l'Allemagne, de Suède, de Norvège, du Danemark, de Tartine, de Turquie, d'Afrique et de presque tout le reste de la terre. Elles seront bien meilleures épouses, bien meilleures mères, quand on se sera accoutumé, ainsi qu'en Allemagne, à prendre des femmes sans dot. Une femme ménagère et laborieuse fera plus de bien dans une maison que la fille d'un financier qui dépense plus en superfluité qu'elle n'apportait de revenus chez son mari. Il faut qu'il y ait des maisons de retraite pour la vieillesse, pour l'infirmité, pour la difformité. Mais par le plus détestable des abus, les fondations ne sont que pour la jeunesse et pour les personnes bien conformées. On commence dans le cloître par faire étaler aux novices des deux sexes leur nudité malgré toutes les lois de la pudeur. On les examine attentivement devant et derrière. Qu'une vieille bossue aille se présenter pour entrer dans un cloître, on la chassera avec mépris, à moins qu'elle ne donne une dot immense. Que dis-je ? Toute religieuse doit être dotée, sans quoi elle est le rebut du couvent. Il n'y eut jamais d'abus plus intolérable. Allez, allez, monsieur, je vous jure que mes filles ne seront jamais religieuses, elles apprendront à filer, à coudre, à faire de la dentelle, à broder, à se rendre utiles. Je regarde les vœux comme un attentat contre la patrie et contre soi-même. Expliquez-moi, je vous prie, comment il se peut faire qu'un de mes amis, pour contredire le genre humain, prétende que les moines sont très utiles à la population d'un état parce que leurs bâtiments sont mieux entretenus que ceux des seigneurs et leurs terres mieux cultivées. Et quel est donc votre ami qui avance une proposition si étrange ? C'est l'ami des hommes, ou plutôt celui des moines. Il a voulu rire, il sait trop bien que 10 familles qui ont chacune 5 000 livres de rente en terre sont 100 fois, 1 000 fois plus utiles qu'un couvent qui jouit d'un revenu de 50 000 livres et qui a toujours un trésor secret. Il vante les belles maisons bâties par les moines, et c'est précisément ce qui irrite les citoyens. C'est le sujet des plaintes de l'Europe. Le vœu de pauvreté condamne les palais, comme le vœu d'humilité contredit l'orgueil, et comme le vœu d'anéantir sa race contredit la nature. Je commence à croire qu'il faut beaucoup se défier des livres. Il faut en user avec eux comme avec les hommes, choisir les plus raisonnables, les examiner, et ne se rendre jamais qu'à l'évidence. Des impôts payés à l'étranger. Il y a un mois que l'homme aux 40 écus vint me trouver en se tenant les côtes de rire, et il riait de si grand cœur que je me mis à rire aussi sans savoir de quoi il était question. Tant l'homme est né imitateur, tant l'instinct nous maîtrise, tant les grands mouvements de l'homme sont contagieux. Ut ridentibus arident, ita flentibus ad flente humanis vultus. Quand il eut bien ri, il me dit qu'il venait de rencontrer un homme qui se disait protonotaire du Saint-Siège et que cet homme envoyait une grosse somme d'argent à 300 000 lieues d'ici à un Italien au nom d'un Français à qui le roi avait donné un petit fief et que ce Français ne pourrait jamais jouir des bienfaits du roi s'il ne donnait à cet Italien la première année de son revenu. Le jésuite Sanadon a mis ad sunt pour ad flent. Un amateur de race prétend que c'est pour cela qu'on a chassé les jésuites. La chose est très vraie, lui dis-je, mais elle n'est pas si plaisante. Il en coûte à la France environ 400 000 livres par an en menu droit de cette espèce, et depuis environ 2 siècles et demi que cet usage dure, nous avons déjà porté en Italie 80 millions. « Dieu paternel ! » s'écria-t-il, « que de fois 40 écus ! Cet Italien-là nous subjugua donc il y a 2 siècles et demi. Il nous imposa ce tribut. « Vraiment, répondis-je, il nous en imposait autrefois d'une façon bien plus onéreuse. Ce n'est là qu'une bagatelle en comparaison de ce qu'il leva longtemps sur notre pauvre nation et sur les autres pauvres nations de l'Europe. » Alors je lui racontai comment ces saintes usurpations s'étaient établies. Il sait un peu d'histoire, il a du bon sens. Il comprit aisément que nous avions été des esclaves auxquels il restait encore un petit bout de chaîne. Il parla longtemps avec énergie contre cet abus, mais avec quel respect pour la religion en général. Comme il révérait les évêques, comme il leur souhaitait beaucoup de 40 écus, afin qu'ils les dépensassent dans leur diocèse en bonnes œuvres. Il voulait aussi que tous les curés de campagne eussent un nombre de 40 écus suffisant pour les faire vivre avec décence. Il est triste, disait-il, qu'un curé soit obligé de disputer 3 germes de blé à son ouaille et qu'il ne soit pas largement payé par la province. Il est honteux que ces messieurs soient toujours en procès avec leur seigneur. Ces contestations éternelles pour des droits imaginaires, pour des dîmes, détruisent la considération qu'on leur doit. Le malheureux cultivateur qui a déjà payé au préposé son 10e et les 2 sous pour livrer la taille et la capitation et le rachat du logement des gens de guerre, après qu'il a logé les gens de guerre, etc., etc., cet infortuné, dis-je, qui se voit encore enlever le 10e de sa récolte par son curé, ne le regarde plus comme son pasteur, mais comme son écorcheur, qui lui arrache le peu de peau qui lui reste. Il sent bien qu'en lui enlevant la 10e gerbe de droit divin, on a la cruauté diabolique de ne pas lui tenir compte de ce qui lui en a coûté pour faire croître cette gerbe. Et que lui reste-t-il pour lui et pour sa famille? Les pleurs, la disette, le découragement, le désespoir, et il meurt de fatigue et de misère. Si le curé était payé par la province, il serait la consolation de ses paroissiens, au lieu d'être regardé par eux comme leur ennemi. ce digne homme s'attendrissait en prononçant ces paroles. Il aimait sa patrie et était idolâtre du bien public. Il s'écriait quelquefois « Quelle nation que la française, si on voulait !» Nous allâmes voir son fils à qui sa mère, bien propre et bien lavée, donnait un gros téton blanc. L'enfant était fort joli. « Hélas !» dit le père, « te voilà donc, et tu n'as que 23 ans de vie et 40 écus à prétendre. »